l'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes qui est présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, communément appelée la SPIB. Et j'ai le plaisir, comme toujours, de retrouver son président directeur général, Donald Olivier. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors tantôt, je vais présenter des invités en studio pour notre dernière avant les fêtes. Donc, avant toute chose, on va rappeler aux auditeurs, auditrices, la possibilité toujours de poser vos questions en allant tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes ou en cliquant sur « Poser vos questions ». Et sinon, on peut le faire par téléphone, par texto, 819-519-9050, 819-519-9050. Mais Donald, avant de présenter nos invités, on va garder notre bonne habitude de revenir sur l'actualité. Quelques points ce matin. Donc, en lien avec Nemaska Lithium, mise en pause de mine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Là?
Oui, bien évidemment, il faut quand même préciser que l'usine continue d'avancer. Hein. Mm-hmm. Donc, la mise en pause, c'est les mines.
D'accord.
Évidemment, on comprend que Rio Tinto veut comme prendre le temps d'analyser la situation, voir comment ils vont se positionner. Mais il faut quand même rappeler aux gens que pourquoi Bécancour, ben il y a un port aussi. Hein. Donc, si on a besoin de spot du Maine pendant une certaine durée tout ça, ben Nemaska a plein d'options. Donc, ils ont plein d'options de dire, OK, d'où on peut s'approvisionner au Québec, mais il y a quand même le port qui est à proximité. Ça fait que, donc, ça fait toujours partie des différents plans A, plan B, plan C quand on vient à Bécancour, qu'on sait qu'on a plein d'options, dont le port. Fait que, donc, on va leur laisser confirmer leur stratégie. Mais assurément, il y a quand même plusieurs choix possibles pour commencer leur mise en service.
D'accord. Puis aussi, au niveau de la filière batterie, bon, chez certains joueurs, on voit quand même un vent de syndicalisation. Est-ce qu'on doit s'en surprendre?
Les syndicats avaient loué un local à Bécancour pour se préparer. Fait que donc, c'est tout sauf une surprise. Mm-hmm. Bon, là, il y a beaucoup d'usines. Je dirais la majorité des usines où est-ce que la production à Bécancour sont syndiquées par différents syndicats. Fait que, bon, ça garde pour moi... On n'a pas de confirmation des entreprises visées si c'est bel et bien le cas ou pas, mais cette tendance-là, pour moi, c'est pas une surprise. Mm-hmm. Puis c'est un droit des travailleurs. Hein, mm-hmm. Donc, les travailleurs peuvent se regrouper et puis c'est leur choix. Fait que donc, on va les laisser aller avec leur démarche, mais c'est pas positif, c'est pas négatif. C'est une façon qui peut être différente de travailler, mais qui fonctionne très bien à certains
endroits. De toute façon, il y a déjà des usines dans le parc où les gens sont syndiqués.
La plupart des usines le sont.
D'accord. Ce matin même, à Trois-Rivières, il y avait une annonce dans le domaine de la recherche en transition énergétique. On parle de 6-7 millions environ. Là. Comment on accueille ça de ton côté? Quand on a des nouvelles par rapport à la recherche en transition énergétique?
Oui, bien c'est vraiment l'achat d'équipements hein, puis des budgets pour de la recherche, beaucoup sur les minéraux critiques. Donc, l'UQTR, le cégep de Trois-Rivières vont bénéficier de ces sommes-là. Et puis vraiment, pour être capable d'être encore plus efficace puis offrir davantage de services dans toute cette recherche-là sur le minéraux critique, fait que c'est positif. Parce que si on veut s'assurer que nos usines, les usines qui se construisent, ne deviennent pas dépassées au fil des décennies, ben d'avoir des pôles de recherche pas très loin, c'est ça qu'il faut. Donc, il y a le CNET à Shawinigan aussi qui offre des services. Mais fait que donc, pour moi, c'est très, très positif. C'est donc d'avoir des usines qui poussent sans tous ces avantages-là, d'avoir de la recherche à proximité, ça serait différent. Fait que pour moi, ça fait juste témoigner de la volonté d'accueillir et d'avoir du succès dans cette transition énergétique-là qui passe entre autres par les minéraux critiques.
Puis autre point avant d'aller avec nos invités, on parle de transport de gravier par rapport à des travaux au port. Est-ce que tu peux nous en préciser?
Oui, peut-être. Je voulais juste informer les auditeurs. Tu sais, il y a eu quand même certains enjeux avec les cailloux dans les pare-brises il y a 2 ans. Nous, on essaie de tirer le son de ce qui nous arrive. Et puis là, on a un projet qui commence au port, le projet d'agrandissement du port. C'est un contrat qui est géré par la Société du parc. Et nous, on a obligé l'entrepreneur à avoir numéro de téléphone, numéro de camion à l'arrière. Donc, si vous suivez un camion, que vous voyez quelque chose d'anormal, que vous souhaitez le rapporter, il va y avoir un numéro de téléphone et un numéro de camion. Donc, ça va être facile pour les gens de le mémoriser. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les camions qui sont reliés à la Société du parc, mais ceux qui sont reliés aux travaux au port vont être identifiés avec un numéro et un numéro de téléphone. Donc, vous voyez un chargement de gravier, du gravier qui s'écoule, un camion, je suis obligé de dire que j'en ai déjà vu, moi, qui brûle un feu rouge. Le meilleur moyen, c'est d'appeler. Et puis, l'entreprise doit prendre en charge les appels qui rentrent et nous faire un retour par la suite. Ça fait que donc, c'est de quoi qu'on essaie qui commence déjà cette semaine. Fait qu'on va voir quel effet positif ça peut avoir sur la sécurité sur l'autoroute.
Bon, je pense que ça valait la peine d'informer les gens par rapport à ce qui commence et qui va être pas mal intensif là, pendant les prochaines semaines.
Puis tu sais, ce qu'on souhaite, c'est que si ça marche bien, ben peut-être que ça donnera des idées à d'autres entreprises aussi d'installer des systèmes similaires, parce que tu sais, il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui souhaite qu'il y ait des situations non sécuritaires, mais c'est difficile de gérer l'ensemble des camions qu'ils ont sur la route. Fait qu'avec un système comme ça, on pense que ça va nous aider à adresser les situations.
Super. Alors, on en est rendu maintenant à présenter nos invités, puis après ça, je vais te laisser, Donald, nous expliquer pourquoi tu tenais à ce qu'on ait cette formule spéciale avant notre pause des fêtes. Alors, on a avec nous aujourd'hui un étudiant de secondaire 5 d'une école que tu connais bien, les Seigneuries, Donald. Alors, on a David Baudet. Alors, bienvenue, David, parmi nous.
Bonjour.
Alors, David qui va poser des questions aujourd'hui, donc je vais prendre une petite pause quasiment d'animateur. Ça va être moins intense. Non, mais quand même, David va jouer le rôle d'animateur aujourd'hui, tantôt dans quelques instants. Et on devait avoir avec nous aussi Alexis Savard, également de l'école secondaire des Seigneuries, secondaire 5 aussi, mais là, aujourd'hui, il ne pouvait pas se présenter, donc on a pris une jeune étudiante. Quasiment, presque, oui. Mais non, c'est Marie-Noëlle Bourque qui va jouer le rôle d'Alexis, qui va poser les questions. On tenait quand même à ce que les questions qu'Alexis voulait poser, ben, qu'on puisse les poser. Puis on a demandé à Marie-Noëlle Bourque, collaboratrice de l'émission, conseillère en relation avec le milieu à l'ASPIB, de poser ces questions-là à la place d'Alexis. Donc, bienvenue, Marie-Noëlle.
Ben, merci, Marc. Ça me permet aussi de diminuer la pression sur les épaules de David pour sa première fois à la radio.
C'est bon. On apprécie, Emmanuel, ta participation. Alors peut-être, Donald, pourquoi tu tenais à ce qu'on termine l'année avec en donnant le micro aux jeunes, justement, pour que les jeunes puissent poser leurs questions à toi, mais aussi par rapport au parc?
Bien, c'est sûr que je souhaitais, tu sais, en fin d'année, d'avoir un peu un format différent. L'an passé, rappelons-nous, c'était Jean-Guy et Maurice, là, Jean-Guy Dubois puis Maurice Richard qui étaient venus. Et puis, on discutait avec Marie-Noëlle qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Puis, l'idée d'avoir des jeunes, quelqu'un de plus jeune, c'est que le parc industriel qui se développe, là, c'est comme on fait ça pour des décennies. Hein, puis, c'est comme, c'est ma famille est arrivée ici à Gentilly à cause de ce parc-là. Ça crée des emplois et tout ça. Et puis, on le fait pour les générations qui suivent aussi. Fait que, pour moi, de donner la chance d'avoir quelqu'un de plus jeune qui pose des questions sous son angle à lui. T'sais, parce que quand on a 30, 40, 50, 60 ans, on voit les choses sous une perspective différente. Mais quelqu'un qui veut aller se chercher une formation et qui veut embarquer sur le marché du travail, il peut avoir une façon différente de voir les choses. Puis moi, je tenais à ce qu'on l'aborde sous cet angle-là. Parce qu'un parc industriel, c'est là pour longtemps. Et puis, on souhaite qu'il soit aussi au service ou que la communauté puisse y tirer son compte avec toutes les activités qu'il peut y avoir. Fait que, tu sais, vraiment, c'était pour donner une parole, la parole aux jeunes, puis avoir des questions qui viennent vraiment d'eux autres et non supposer qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme question.
Puis, David, avant que tu poses ta première question, moi, je vais t'en poser une, dans le sens que c'est quoi tes champs d'intérêt, c'est quoi tes implications? Qu'est-ce que tu vises après le secondaire? Peut-être nous raconter ça un peu.
Oui, ben moi, en fait, j'aurais visé pour garder la tradition familiale. Donc, je vais aller dans l'électricité. Mm-hmm. Donc, je vais aller faire deux DEP. D'accord. Un en électromécanique. Puis après, je vais aller en faire un en électricité.
D'accord. Okay. Ouais. Donc, c'est ton plan de match pour dès le mois de septembre, dans le fond.
Oui, c'est ça. Okay.
Puis, septembre 2026.
Oui, exact.
C'est bon. Puis tu demeures à Gentilly.
Oui.
Donc, une place que tu connais un peu, Donald.
Oui, puis on parlait avant en ondes. On restait pas dans la même rue, mais les rues qui sont voisines dans le secteur Gentilly, dans le domaine. Là. Donc, bon, moi, je suis plus là depuis un bout de temps, mais le monde est petit en campagne. Là. On connaît toujours quelqu'un qui nous, par personne interposée, on se connaît. Ça prend pas beaucoup de distance. Là.
Puis Marie-Noëlle, la famille dans ce coin-là.
Oui, moi, je suis native de Gentilly aussi sur la rue des Galaxies. Donc, mon cœur est bien présent à Gentilly aussi.
C'est bon, fait qu'on est pas mal gentil aujourd'hui.
Ouais, donc c'est bon. C'est une réunion de famille.
Exactement.
Donc, écoute, David, je te laisserai poser ta première question à Donald. Puis après ça, ce sera Marie-Noëlle qui prendra la relève pour Alexis.
Parfait. D'accord. Donc, ma première question, c'est quand tu étais adolescent, est-ce que tu t'imaginais diriger un parc industriel un jour?
Non, quand j'avais ton âge en secondaire 5 au Seigneuret, même école, je vais te dire, dans mon cas, j'ai voulu poursuivre la tradition familiale. Mon père était en mécanique, je suis allé en mécanique, et puis j'ai pas tellement aimé, fait que je suis allé au génie civil après. Mais la réponse à ta question, c'est non. Tu sais, dans mon cas, Tu sais, je savais même pas si j'allais aller au cégep, encore moins à l'université. Ça fait que donc, j'avais pas ce plan-là. Je pouvais penser, mon père voulait beaucoup que je travaille dans le parc, mais j'avais pas de plan de carrière. Donc, non, vraiment, puis ça fait pas si longtemps que ça. Hein, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit non, je pense pas que je peux accéder à ce job-là. Ça fait que donc, je le pensais pas quand j'étais jeune, et même il y a 10 ans, là, j'avais pas ça dans mon esprit.
Oui, mais surtout quand on est jeune, on a quand même de la misère à savoir en partant ce qu'on veut faire plus tard. Là. Fait que c'est quand même difficile.
Oui, effectivement. Puis moi, dans mon cas, ce qui a aidé, c'est de mettre les mains à la pâte, d'aller travailler. Donc, je suis allé en génie mécanique. J'ai pas nécessairement aimé. J'ai pris une année sabbatique. Donc, je suis allé travailler. Puis c'est aller travailler à Montréal sur des chantiers de construction qui m'ont fait de connaître le domaine de la construction. Et que là, j'ai su c'était quoi le génie civil. Fait que c'est un peu ça. Fait que je pense qu'un des trucs, c'est vraiment de tester des trucs, puis d'aller travailler, puis on le voit, ce qui nous rejoint ou ce qui nous rejoint moins. Hein.
Marie-Noël?
Oui. Donald, tu as un parcours assez impressionnant au niveau professionnel. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui te passionne dans ton travail d'aujourd'hui, dans ton rôle d'aujourd'hui à la SPIM?
Bien, ce qui me passionne, je vais dire, mettons, c'est vraiment l'idée de faire une différence à quelque part. Tu sais, parce que, bon, j'ai eu des jobs, tu sais, m'occuper des barrages, fermer Gentilly 2, développer ce parc industriel-là. Tu te dis, OK, c'est quoi le fil conducteur? Le fil conducteur que je vois, c'est des projets un peu particuliers puis qui ont un impact dans le milieu. Donc, je pense que tu sais, ce qui me passionne, c'est pas tant un élément précis de ma job comme ce qui me motive beaucoup dans ce dossier-là, c'est de dire, OK, ce parc-là qu'on travaille, tu le sais comme moi que c'est 700 millions de dollars qu'on met dans nos infrastructures. Bien qu'il y ait un ralentissement de la filière batterie, ce qui se passe là, c'est le plus gros développement industriel depuis l'ABI. Donc, on aurait aimé en faire plus, mais là, on ralentit un petit peu, mais il faut être fier de tout ce qui se passe. Fait que, moi, vraiment, ce qui me motive là-dedans, c'est de dire, OK, ce qu'on contribue là, ça va avoir des impacts sur la communauté régionale.
Pour des années.
Oui, pour des années, parce que c'est vraiment ça, moi, qui me motive, de dire, OK, on travaille sur quelque chose qui fait du sens pour la communauté. Et puis, tu sais, on pense que c'est des projets industriels, c'est déconnecté de la communauté, mais non, c'est vraiment connecté. C'est ça qui amène des emplois, c'est ça qui amène plein de trucs autour des emplois de toute nature.
Là. David?
Oui, donc, ma deuxième question, c'est quoi le défi le plus inattendu que tu as raconté et de quoi as-tu été surpris?
Donc, Quand je suis arrivé en poste à la Société du Parc.
Oui, c'est ça.
Ce qui m'a surpris vraiment, c'était la cadence. Donc, quand je suis arrivé en mai 2022, bon, c'était pas très public, là, les annonces et tout ça, mais quand je suis arrivé, oh, OK, ça s'en vient. Et puis, il fallait construire les infrastructures rapidement. Fait que, là, aujourd'hui, on parle d'un ralentissement, mais quand je suis arrivé en 2022, il fallait s'assurer que les usines partent. Fait que j'avais jamais vécu un mandat où est-ce que le stress de temps était aussi intense. Donc, tu sais, je rappelle aux gens, en mai 2022, il n'y a pas d'études de fait, pas d'ingénierie, puis il fallait faire des travaux. Donc, ça a été très inconfortable, pas juste pour moi, là, pour l'ensemble des équipes. Fait que ça, j'avais vécu des dossiers compliqués, mais celui-là, c'était vraiment la cadence qui était vraiment, vraiment hors norme. Là.
Okay. Donc tu es arrivé vraiment là, dans le gros dans le gros jus comme on dit au Québec. Là.
Ben, c'est que tout le monde s'attend à ce qui se passe de quoi, puis OK, go, faut se mettre en action. Puis il faut voir que la Société du Parc, on a des emplois de qualité. L'affaire, c'est qu'on n'avait pas vécu ça. Fait que, fallait procéder à des embauches, fallait implanter des nouvelles façons de faire. T'sais, gérer un budget de 10-12 millions par année, tu es habitué de faire ça, mais là, OK, tu dis là, le budget va monter à 130, 140, 150 millions par année avec les projets. C'était pas juste de faire les travaux, c'était de s'assurer que l'organisation soit prête. Et puis, on s'en est bien tiré parce qu'on a réussi à livrer. On termine les travaux dans les semaines qui suivent.
Et on s'en est bien tiré pour cette première partie d'émission parce qu'on est déjà rendu à la pause, imaginez-vous donc. Alors, on va revenir après la pause pour parler du parc, du port, de l'environnement, des métiers d'avenir, des opérations et du futur de la SPIB avec un jeune animateur avec nous, David Baudet. Oui. De l'école secondaire des Seigneuries. Et on est ici Marie-Noëlle de Bourquet qui pose aussi des questions au nom aussi d'Alexis Savard, un autre étudiant, avec Donald Olivier. Alors, d'ici là, prenez le temps de la pause pour nous poser vos questions à la maison en nous contactant. Donc, comment? En allant sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, en cliquant sur Poser vos questions ou 819-519-9050, 819-519-9050. Et on se retrouve après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Alors, on est de retour avec nos invités. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à David pour poser une autre question à Donald Olivier.
Oui, donc, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que votre parc industriel est considéré comme en deuxième vie, en déploiement?
Bien, il y a eu quand même beaucoup d'usines qui sont arrivées les années 70, 80, 90. Et puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs projets en même temps. Et puis, deuxième vie, parce qu'on investit nous aussi. Tu sais, c'est pas juste les entreprises qui arrivent, mais carrément, on a construit des routes, on a construit des rails, les fameuses conduites enfouies dans le sol pour l'eau, les égouts et tout ça, l'usine. Fait que donc, c'est ça la deuxième vie, parce que ce qui fait le succès d'un parc industriel, c'est es-tu en mesure d'accueillir les usines? Puis accueillir les usines, ça veut beaucoup dire, je dis souvent la blague qu'une usine, ça n'a pas besoin d'un petit tuyau d'aqueduc de 2 pouces, là, ça a besoin de beaucoup plus que ça. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait qu'on, donc, on a réussi à avoir les investissements requis pour être capable d'accueillir ces entreprises-là, parce que bien que les usines voulaient venir à Bécancour, sinon on ne faisait pas nos travaux, ils ne venaient pas. Donc, c'est un peu ça, la deuxième vie. Fait que c'est comme le potentiel de Bécancour qui était connu par certains. Bien là, on le met plus en évidence. Puis le gouvernement l'a plus assumé aussi, ce potentiel-là.
On pourrait y aller du côté environnement. Des questions sur l'environnement. Je laisserai peut-être Marie-Noël à ce moment-là poser des questions.
Oui, Donald, je sais qu'on réitère souvent qu'on est mandaté pour être un parc exemplaire avec cette deuxième vie-là, ce déploiement-là. Donc, comment un parc industriel peut être bon pour l'environnement? Comment aussi les usines peuvent... en fait, contribuer à être bon pour l'environnement, puis à quelles règles environnementales peuvent être, en fait, les usines peuvent avoir de leur côté là, pour être en mesure de produire et de préserver tout ça.
Oui, donc, il faut voir que chaque usine, avant de mettre en service, doit avoir un permis pour respecter les critères environnementaux. Fait que donc, c'est sûr que ça, c'est un processus réglementaire. Puis, je ne peux pas dire que les entreprises ne polluent pas. Tu sais, il y a comme évidemment un certain degré de pollution qui vient avec les activités industrielles, mais tout ça est conforme aux lois et règlements qu'on s'est donné. Fait donc, les fameux pourcentages d'émissions dans l'eau, dans l'air, ce que les Québécois jugent acceptable et puis qui se reflète dans les lois et règlements, bien ça, ils sont tenus de le respecter. Puis, ce qu'on peut faire, nous, pour aller plus loin, bien, c'est justement d'inciter l'entreprise avec nous d'aller plus loin. Le fameux programme de suivi de qualité de l'air qu'on fait de façon volontaire. C'est pour aller plus loin, les aires protégées qu'on fait avec l'île Montesson, donc redonner un territoire. Donc, il y avait une très grande biodiversité. Il y a une très grande biodiversité à Montesson. Et donc, c'est un peu des initiatives que nous, on peut faire pour être un parc modèle. Et puis oui, OK, écoutez, c'est clair que quand on fait un projet, on ne l'a jamais caché. Il peut y avoir des impacts sur les milieux humides et tout ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mettre en valeur le potentiel aussi en périphérie du parc et puis tenter d'être un exemple là-dessus.
Puis en plus, on travaille de concert avec les groupes environnementaux régionaux. Donc, on a des experts en la matière aussi qui viennent appuyer les décisions, les initiatives qu'on prend.
Oui, bon point, Marie-Noëlle, parce que ça fait 2 ans qu'on regroupe les 6 ou 7 organismes environnementaux au mois de mai de chaque année pour échanger sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut aller. Et puis, ils sont derrière nous en autant qu'on fasse bien les choses. Donc, c'est le message qui nous passe. Fait que donc, c'est un peu unique. Hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup de parcs industriels qui fait ce genre d'initiative-là. Mmh.
On y va du côté des métiers d'avenir. Je laisserai David poser une question là-dessus.
Oui, donc, c'est quel conseil tu donnerais aux jeunes qui veulent travailler dans le parc industriel plus tard?
Bien, écoute, le conseil, tu sais, puis bon, je ne veux pas que ça fasse prétentieux de donner des conseils, mais je pense que parc industriel ou pas, moi, je pense que ça repose beaucoup sur, tu sais, puis c'est de se connaître comme personne. T'sais, donc, t'sais, voir ce que tu vas aimer, t'sais, parce que ce qu'il faut, c'est faut voir que c'est longtemps à travailler. T'sais, donc, ouais. Là, tu es en secondaire 5 et puis tu vas travailler dans ta vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine. Et puis, ce qu'il faut, c'est tenter d'être bien dans notre travail et puis évoluer dans notre travail pour quand même plusieurs décennies. Ça fait que donc, je donne souvent comme exemple quelqu'un qui est très, très bon dans les relations interpersonnelles, puis qui aime être avec les gens, puis qui a un job d'inspection tout seul dans son coin, et puis qui ne voit pas personne de la journée, je ne pense pas qu'il va être heureux. Et vice-versa, la personne qui est très, très introvertie, puis qui est mieux dans ses trucs, ben sera peut-être pas quelqu'un qui sera bien dans une fonction, exemple, de conseillère ressources humaines dans une organisation. Fait que, tu sais, le conseil, c'est... Tu sais, des fois, ça prend du temps à se connaître, hein, comme jeune, puis ça m'inclut quand j'étais jeune. Fait que donc, quand on se connaît mieux, on peut être capable de faire les bons choix. Puis, tu sais, c'est qu'on a tous des forces et des points améliorés. Donc, c'est de tenter d'avoir une job qui va mettre en lumière vos forces et non vos points qui sont le côté qui est peut-être un peu moins... regarde, on a tous des côtés qui sont à travailler. Ça fait que donc, tenter de ne pas faire exprès, de miser sur des jobs qui vont mettre en valeur vos forces.
Oui.
Puis aussi, bon, au niveau des opérations, David, tu aurais une question aussi.
Oui, donc, on entend souvent parler de cadenassage. Peux-tu nous dire en quoi ça consiste? Et pourquoi c'est important?
Oui, bien, ça a fait quand même les manchettes. Hein. Il y a eu un événement relié à du cadenassage, et puis sans commenter cet événement-là, hein, parce que souvent, quand il y a un événement, la CNSST embarque là-dedans. Mais le cadenassage, là, si on le résume, c'est les travailleurs doivent se protéger des sources d'énergie. Puis, tu sais, souvent, on associe le cadenassage à l'énergie électrique. Donc, puis là, je vais parler comme tout le monde parle, là, fermer un breaker puis mettre le cadenas sur le breaker pour être sûr que personne ne réalimente tout ça. Mais il y a d'autres sources d'énergie. Je vais te donner des exemples de ce que moi j'ai vécu dans le domaine d'hydroélectricité quand j'étais à Hydro-Québec. Bon, ceux qui ont déjà vu un évacuateur de crue, un évacuateur de crue, c'est immense. Et puis oui, parfois, il faut aller inspecter à l'aval, donc au pied du barrage. Donc, ce qu'on veut, c'est aller faire des relevés à toutes les années. Donc, la source d'énergie, c'est l'énergie hydraulique, c'est une source d'énergie. Donc, je te donne cet exemple-là. Comme moi, mes employés à l'époque, mes équipes, ben, fallait aller cadenasser pour que personne puisse manipuler la vanne évacuatrice pour pas que les gens reçoivent l'eau sur eux. Puis c'est la même chose dans un groupe turbo-alternateur. Tu sais, tu rentres dans une conduite et puis quelqu'un, s'il ouvre la vanne en haut, va faire en sorte que tu vas te noyer. Fait que c'est ça aussi. Tu sais, puis je donne un autre exemple bien simple. Là, tu sais, une porte de garage, tu fais un entretien. Tu sais, si tu vas dans ton domaine, tu vas peut-être avoir à intervenir sur une porte de garage. Ben, OK, il y a de l'électricité sur la porte de garage, mais tu veux surtout pas qu'elle tombe sur la tête. Fait que donc, le cadenassage, ça peut être aussi d'avoir un dispositif mécanique pour la barrer en position ouverte ou fermée pour être sûr que le poids ne te tombe pas dessus. Fait que le cadenassage, c'est les sources d'énergie qu'on est plus habitué à associer ça à l'énergie électrique, mais c'est de se protéger de toutes les sources d'énergie. Puis c'est les travailleurs qui mettent leur cadenas pour être sûr que personne, tu sais, le fameux exemple, ben toi, tu vas couper le breaker, puis quelqu'un arrive, il manque de chauffage, bien là, il remet le breaker on, mais toi, tu as les deux mains dans l'équipement. Donc, c'est là qu'arrivent les événements. Fait que c'est un peu ça, le cadenassage. J'ai essayé de le résumer rapidement, mais c'est un peu la raison pourquoi c'est important pour les travailleurs.
On est vraiment dans la santé et sécurité là-dedans. Là.
Oui. Puis, tu sais, c'est plate, hein, parce que quand on arrive avec ça, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'événements des décennies passées qui nous ont amenés à avoir une approche différente. Fait que donc, il faut éviter que ça se reproduise.
David, prochaine question.
Oui, donc, en quoi le développement du parc industriel profite-t-il aux habitants de la région?
Bien, ce que ça profite, c'est clair qu'il y a il y a de l'emploi relié au parc industriel. T'sais, comme là, admettons, je lance des chiffres, là, mais c'est à peu près 2500 emplois dans le parc industriel, dans les différentes usines aujourd'hui. C'est à peu près un autre, pratiquement, ben, 2700 à peu près emplois reliés à la construction. Puis ça, c'est les emplois directs. Donc, un emploi direct, c'est, OK, le travailleur, la travailleuse qui s'en va dans l'usine. Mais il y a différents chiffres qui circulent sur les emplois indirects. Donc, de dire, OK, 2500 emplois dans le parc, c'est quoi le ratio indirect? C'est probablement de l'ordre de 3 à 4 fois. Fait que ça veut dire, pour les 2500 emplois dans le parc, il y a des milliers d'emplois aussi autour, les enseignants, enseignantes, les commerces de proximité, tout ça. Ça fait que donc, ce que ça fait, le parc, ça amène vraiment une vitalité économique dans la région, puis c'est quand même un moteur important pour la communauté.
Il y a une sous-question sur l'autoroute, je pense.
Oui, ben est-ce qu'on va doubler l'autoroute 30?
Ah, bonne question. Écoute, c'est le dossier, c'est le ministère des Transports qui gère ça. C'est clair qu'il y a un enjeu de sécurité aux intersections, et puis il y a du volume, mais bonne question, tu sais, c'est le ministère des Transports qui va prendre ses décisions. Puis, je ne peux pas m'empêcher de rebondir avec une suggestion qui est trop simple. La suggestion est trop simple. Hein? Et puis, s'il y avait le tiers des gens qui faisaient du covoiturage, on couperait le trafic. Mm-hmm. Parce que le problème de volume sur l'autoroute 30, là, il est vraiment juste au début et fin de journée. C'est vraiment pour tout le monde qui veut rentrer en même temps le matin pour travailler, puis tout le monde qui veut repartir chez eux très, très vite le soir. Fait que c'est sûr que, mettons, si c'est moi qui décidais, je veux pas, ça va coûter des centaines de millions faire ça. Puis pourquoi le covoiturage n'est pas si populaire, là? On va se dire les vrais trucs, là. Les gens ont quand même des bons salaires dans le parc industriel et puis d'économiser quelques dizaines de dollars par semaine pour faire du covoiturage, c'est pas suffisamment motivateur pour le faire. mais l'approche, ça serait toute simple, tant qu'à moi, pour couper le trafic et puis tenter d'améliorer la situation.
Parfait. Je laisserai la parole à Marie-Noëlle pour une question sur le futur de la SPIB.
Oui, on est en fin d'émission. Donc, Donald, j'aimerais savoir où est-ce que tu vois le parc industriel et portuaire dans 5-10 ans? C'est ton parc de rêve.
Bien, le parc de rêve, c'est sûr que, je le dis souvent, ça passe par les infrastructures hein, pour être capable d'accueillir les projets qui vont se pointer. On termine pour l'instant les infrastructures sur la terre ferme. On commence le projet au port. Donc, au port, c'est un 328 millions. Fait que c'est ça, moi, ce que je souhaite, c'est faut livrer ces travaux-là. Et puis, pour le futur, c'est d'avoir les meilleurs projets, les projets les plus porteurs possibles. T'sais, donc là, les minéraux critiques, c'est un dossier porteur, mais il peut y en avoir d'autres. Il y a des projets de décarbonation, des projets de valorisation des rejets thermiques aussi qu'on travaille. Fait que moi, ce que je souhaiterais, c'est que le parc... qu'on fasse venir des usines, mais des usines qui ont une histoire à compter, qui ont un impact positif, pas juste sur l'emploi, mais sur l'environnement, et puis qu'on puisse être fier des projets qu'on fait venir aujourd'hui, mais j'aimerais ça que cette fierté-là puisse perdurer au fil des décennies. C'est parce que dans le fond, des fois, je suis obligé de dire que des fois, mon téléphone sonne, des gens qui voudraient venir implanter une usine, mais on n'est pas sûr que le créneau est très porteur pour la région. Donc, il y a des choix à faire. Moi, ce que je souhaiterais, c'est être fier des choix qu'on a fait dans le futur.
Donc, peut-être, je laisserai la dernière question, ou les dernières questions. Il reste à peu près 1 minute et demie, 2 minutes à notre ami David. Vas-y.
Donc, ça serait quoi un message que tu aimerais transmettre aux jeunes qui nous écoutent?
Bien, écoutez, je l'ai déjà passé un petit peu, mais quand on est jeune, on sait pas trop ce que c'est le marché du travail. Hein? On sait pas trop ce que c'est. Certains ont eu la chance d'avoir des jobs d'été. Et puis d'expérimenter ce que c'est. Mais je pense qu'un des bons trucs, un message, ce serait de se mettre en action. Tu sais, se mettre en action, aller expérimenter, faites des jobs. Moi, je me souviens de mon garçon qui était à peu près à travailler, mais à un moment donné, on lui a suggéré d'aller faire du bénévolat sur une ferme. Je lui ai dit, regarde, que tu sois payé ou pas, c'est pas grave. Là. Tu sais, va voir ce que c'est. Et puis, ça l'a aidé à faire ses choix, ma fille aussi. Fait que je pense que de s'exposer dans des situations réelles de travail, ça fait qu'on se connaît mieux, puis de choisir des jobs ou des créneaux d'études qui sont en lien avec vos forces. Mais le problème, c'est qu'on est jeune, des fois, on les connaît pas bien, nos forces, mais il faut pas se gêner de parler à nos amis, voir qu'est-ce qu'ils voient en nous, si nous, on n'a pas réussi à le voir facilement.
Oui, puis une des meilleures choses à faire, c'est d'essayer aussi.
Oui, t'sais, exactement.
Il faut prendre le temps d'expérimenter des nouvelles choses.
T'as raison. Puis, tu sais, dans mon cas, je suis allé en génie mécanique, puis l'expérimentation n'a pas été nécessairement concluante. Mais tu vois, je me suis réajusté et puis j'ai trouvé ce qui me convenait davantage. Fait que donc, effectivement, expérimenter.
En tout cas, ce qu'il vient d'expérimenter aujourd'hui est en train de démontrer que c'est un bon animateur. Donc, merci David Baudet d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
De t'être rendu disponible pour poser les questions à Donald Olivier. Merci Marie-Noëlle Bourque aussi d'avoir joué le rôle d'Alexis Savard aujourd'hui, l'autre étudiant qui aurait dû être avec nous. Alors, merci Donald. On se retrouve après les fêtes le 12 janvier pour notre prochaine émission, notre première émission 2026. Et nous aurons comme invité Karine Richard qui va nous parler de la qualité de l'air ambiant. Mais je peux vous dire que dans le studio aujourd'hui, la qualité de l'air ambiant et l'ambiance était excellente parce qu'on a eu vraiment un bon temps avec notre invité David Baudet et Marie-Noëlle Bourque et Donald Olivier qui sera toujours disponible et qui se rendra encore disponible en 2026 pour répondre à vos questions. Alors, joyeuses fêtes à tous et on se retrouve le 12 janvier pour le Parc en 30 minutes.